Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les grandes gueules du sport prennent l'antenne. Votre émission de débat, d'humeur et d'opinion sur l'actualité sportive de la semaine écoulée et à venir, saupoudrée de quelques calembours et d'un brin parfois de mauvaise foi. Premier relayeur de votre week-end de sport sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à midi ou bien à n'importe quelle heure si vous nous écoutez en podcast, ce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire. Les GG, vous le savez, c'est toute l'année, donc tout l'été. On est ravis de vous accompagner avec un programme chargé comme d'habitude. Le Tour arrive demain à Paris, Vingegaard a course gagnée, Pogacar ne fera pas la passe de 3. Est-ce une victoire du Danois ou une défaite du Slovène? C'est la une des GG dans un instant. Cette semaine, la rumeur envoyait Neymar loin du PSG. On demandera à nos grandes gueules si Paris doit tout faire pour se séparer du meneur de jeu brésilien. À 11h, la seconde des GG. L'événement du jour, c'est le quart de finale des Bleus à l'Euro de foot féminin face aux Pays-Bas tenants du titre. Les joueuses de l'équipe de France réussiront-elles à briser le plafond de verre? Mais au fait, les résultats créent-ils la passion ou alors serait-ce plutôt l'inverse? Les GG sur le terrain, celui des mondiaux d'athlétisme où l'équipe de France, excusez-moi, je reprends mon souffle, peine à briller à 2 ans des Jeux de Paris. On se demandera où en est la génération Paris 2024. La punchline, l'invité des GG, votre double ration de zapping, les GG et vous, toutes vos rubriques habituelles. Et pour vous accompagner autour de moi jusqu'à midi, une grande gueule qui, comme Thibaut Pinot, fait souvent la course en tête avant de finir rétamée, mais elle, c'est sur la route des vins. Salut Marie. Marie Martineau.
Et tu sais quoi, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'ai peut-être bien décidé de calmer un peu le champagne et basculer sur les vins parce que je me dis qu'il y a quand même vachement d'opportunités sur les vins. Donc, j'y réfléchis en ce moment. Route des vins.
Oui, bah, tout va bien alors, ouais. on est rassuré.
Hyper.
Une grande gueule qui, comme Thibaut Pinot, a souvent visé le maillot du meilleur grimpeur, mais lui c'était en vacances au camping. David Douillet parmi nous. Salut David.
Grimper, c'est toujours compliqué, même si j'ai mis tous les efforts pour y arriver.
Oui, on est fiers de toi, David, en tout cas de Merci. Tous ces efforts déployés. Ravi d'être avec toi jusqu'à midi. Une grande gueule qui, comme Thibaut Pinot, a toujours eu du mal à se mettre au service du collectif. Marion Bartoli, salut Marion.
Absolument, mais oui, toujours.
On embrasse évidemment.
Individualiste.
On embrasse évidemment toutes tes
Ça
copines
va, les amis.
De l'équipe de Fed Cup.
Ouais.
Marie Martineau, Marion Bartoli, David Douillet, l'équipe du jour. Et puis vous, au 32-16, les auditeurs, on vous attend. Amina vous attend au standard si vous voulez réagir à nos débats. Les GG et vous, votre rubrique en fin d'émission, l'application Direct Studio pour réagir en direct, le hashtag RMC Live. Évidemment, vous êtes partie prenante de nos débats. Allez, c'est parti les amis, Pogacar, Vingegaard au palmarès de la Grande Boucle. C'est chacun son tour.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Vingegaard, le Danois qui nous régale et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar.
Vingegaard derrière qui lance les hostilités à nouveau. Ah, Pogacar a plus de mal. Mais est-ce que Pogacar peut suivre?
Non,
il ne peut pas suivre. Pogacar ne peut pas suivre. Il écoute dans son oreillette. Il est en difficulté, Pogacar.
Ça y est, Vingegaard est parti. Pogacar qui tente de prendre la route du maillot jaune.
Il est à la dérive, Pogacar.
Ah, il s'accroche. Il s'accroche
à gauche, à droite. Non, non, il va.
Ah, il s'accroche
va
à la route Godu. Pour l'instant, il n'est pas lâché par David Godu.
On l'a jamais vu comme ça. On l'a jamais vu comme ça.
Chute de Pogacar qui va se relever. Chute au ralenti pour Pogacar, mais Vingegaard a pu prendre quelques mètres d'avance.
Vingegaard qui l'attend, qui préfère.
C'est pas maladroit.
Ouais. Il préfère
il
attendre. Et la main. La main dans la main. Pogacar est en difficulté. Ouais. Pogacar est lâché. Wout van Aert et Vingegaard qui partent tous les deux. Pogacar qui est en train de perdre définitivement le Tour de France. Jonas Vingegaard qui touche son cœur, qui sait qu'il a gagné. Il embrasse la foule et il peut maintenant serrer le poing. Jonas Vingegaard, vainqueur à Otakam.
Cette production de Julie Dérault avec effectivement certains des meilleurs moments vécus sur l'antenne grâce à notre Dream Team Vélo hein, qui va être contente elle aussi de retrouver les Champs-Élysées demain. On s'est régalé évidemment durant 3 semaines sur l'antenne de RMC Intégral Tour, l'After Tour. Alors, seul un test Covid positif hein, pourrait encore le priver de la victoire dans ce Tour de France 2022. Jonas Vingegaard ne perdra pas les 3 minutes 26 sur les 40 km du contre-la-montre de Rocamadour ce samedi. A priori, le Danois de l'équipe Jumbo Jumbo-Visma à course gagnée. À 25 ans, il a ébloui tous les observateurs d'une édition qui semblait promise une nouvelle fois au double tenant du titre, Tadej Pogacar. La 11e étape et l'arrivée au col du Granon a prouvé que le Slovène n'était pas imbattable et montré que le Danois était peut-être plus fort que ce que l'on pensait. Alors sur la musique qui fout les jetons, je vous pose cette question, les grandes gueules. Est-ce une victoire de Vingegaard ou bien une défaite de Pogacar? Marion Bartoli.
Défaite de Pogacar.
Une défaite de Pogacar pour Marion. David Douillet.
Ouais, moi je suis d'accord avec Marion. C'est une défaite de Pogacar qui s'est mal préparée, je pense.
Marie Martineau.
Ah ouais, carrément, qui s'est mal préparée. Alors moi, ça serait une victoire de Vingegaard.
Une victoire du Danois, quand même. On va saluer un petit peu la réussite du nouveau palmarès. Alors avant de vous donner la parole pour ce débat, on va accueillir Pierre-Yves Leroux, un de nos envoyés spéciaux sur la route du Tour. Salut Pierre-Yves.
Salut Simon, bonjour à tous.
Coucou.
Pierre-Yves, je le disais, jusqu'à cette 11e étape, c'est vrai qu'on avait tendance à croire que personne ne réussirait, encore une fois, à battre un Pogacar qui faisait jusque-là grosse impression.
Oui, mais peut-être que ce qu'on avait tous oublié et qu'on a peut-être redécouvert, c'est que le cyclisme, ce n'est pas un sport individuel. La session tableau noir de la journée du Granon est à montrer vraiment dans toutes les écoles. Si Pogacar a coulé et perdu le tour ce jour-là, c'est bien parce que le harcèlement permanent des picadors jaune et noir a probablement entraîné une fringale du maillot jaune. Ensuite, les Wout van Aert, Van Hooydonk, Benoît Kuss et compagnie ont encadré Jonas Vingegaard pour poser les banderilles. Et dans Otakam, le nouveau maillot jaune a effectué lui-même la mise à mort, mais Pogacar n'avait déjà plus les forces de lutter. Mauro Gianetti, le manager de l'équipe UAE, a souvent répété avant le tour, la Jumbo a deux équipes, les équipiers de Vingegaard et Wout van Aert, c'était sûrement un peu trop pour Pogacar.
Bon, effectivement, Pogacar, on aura peut-être l'occasion de l'entendre tout à l'heure, qui a été obligé de reconnaître qu'effectivement, face à la Jumbo, c'est compliqué de lutter. Merci Pierre-Yves, on te garde encore quelques petites minutes. Je sais que tu as attendu par ailleurs, si tu veux intervenir dans le début de ce débat. J'ai envie de laisser la main à Marie Martineau, parce que toi au moins, tu penses, contrairement à nos deux autres grandes gueules du jour, que c'est quand même le Danois qui est allé chercher cette victoire face à Pogacar. Pourquoi ?
Pourquoi ? Déjà parce que je pense qu'il a été plus fort, donc je salue le fait qu'il a été plus fort et qu'il nous ait tous surpris. Alors je suis entièrement d'accord avec Pierre-Yves, je pense que c'est une victoire de la Jumbo, au-delà de la victoire de Vingegaard, parce que c'est son équipe qui a fini par faire plier Pogacar avec toutes ses attaques multipliées. Enfin, l'homme n'a pas pu résister à ça, et donc dans un premier temps c'était quand même un combat entre un seul homme et toute une équipe. Voilà, il a été plus en forme. La preuve, c'est qu'à chaque fois du coup que Pogacar a tenté de réessayer de récupérer son maillot jaune et de poser des attaques, c'était des attaques qui étaient plus assez incisives. L'autre était complètement collé à sa roue et le laissait pas respirer. Donc ça a été aussi une victoire peut-être psychologique au-delà de la victoire physique. J'ai trouvé que le combat était chouette. On a quand même commencé ce tour en ne parlant que du duel Roglic-Pogacar. On a parlé de Vingegaard, mais comme d'un joker, quoi, de quelque chose au cas où il y aura un problème chez Roglic. On avait complètement oublié d'imaginer que quelqu'un pourrait être mieux préparé que Poggi dans une meilleure équipe. Poggi dans une meilleure équipe et qui pourrait faire le job. Et voilà, donc pour moi, c'est un vainqueur bien plus que... Enfin, on ne peut pas reprocher grand-chose quand même à Pogacar. On ne peut pas dire que Pogacar a perdu. Enfin, il fait quand même deuxième du tour. Ils sont 140 derrière lui à avoir fait moins bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça.
Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que Marion et David ne sont pas d'accord. Marion, tu trouves que Pogacar n'a pas été au niveau auquel il aurait pu évoluer ?
Écoute, non, en fait, moi j'ai trouvé qu'il s'est mal préparé. En tout cas, les Jumbo ont fait une bien meilleure préparation que lui. Ils sont partis pendant un mois en stage à la montagne en s'entraînant tous les jours ensemble, à très haute intensité. On a vu que c'est finalement dans la montagne aussi que Pogacar a vraiment plié. Donc, c'est sur cette fameuse étape où on avait l'impression qu'il n'arrivait plus du tout à suivre et qu'il avait eu un énorme coup de barre. Il a préparé finalement ce tour en faisant que le Tour de Slovénie. Pour moi, on ne prépare pas un Tour de France en faisant que le Tour de Slovénie. Et je pense qu'il avait tellement été fort en 2021, il avait tellement surclassé tout le monde. Je relisais un petit peu les articles avant le Tour de France cette année pour voir finalement, d'après les spécialistes, qui était favori, et on ne voyait pas Pogacar perdre cette année en fait. Donc on se demandait même s'il allait finalement battre son record de vitesse, il allait terminer le Tour de France plus vite, mais on ne lui voyait pas vraiment quelqu'un être capable d'aller le chercher sur un Tour de France entier. Et on a vu que dès les pavés, il a commencé vraiment à montrer des signes de difficulté. Il avait du mal à rester dans les roues de ses concurrents. Après, bien évidemment, que l'équipe entière de la Jumbo a aidé totalement Vingegaard à aller chercher ce titre. Lui, on a l'impression qu'il était un petit peu seul. Mais pour moi, ce manque de préparation où il n'a pas fait assez d'entraînement à très haute intensité pour être capable, encore une fois, dans la chaleur aussi qu'il a beaucoup pesé cette année, d'aller chercher un petit peu tout seul certes, mais une meilleure cadence et une meilleure puissance. Lui avait déclaré qu'il se sentait plus fort cette année, plus mince, plus puissant. On n'a pas vu ça finalement sur des étapes dures. On a vu au contraire un coureur qui était plutôt en difficulté, qui avait du mal à relancer, qui avait du mal à mettre de l'intensité.
En difficulté, Marion, il gagne quand même 3 étapes sur le tour. Bon, je suis pas sûr qu'il était en grande difficulté.
Quand tu vises le titre et que tu finis deuxième à plus de 2 minutes, de toute façon, c'est que tu as raté. Enfin, pour lui, il a raté son tour. Après, on peut toujours dire qu'il a mieux fait que les autres, mais
il a raté une étape, sinon il est toujours devant, il est seul et toujours devant quand même. Enfin, je te trouve dur.
Il n'est pas seul. S'il avait été seul et toujours devant, il l'aurait gagné.
Mais non, après, tu gagnes pas le tour tout seul,
certain. Pour moi, si tu veux, les défaillances qu'il a montrées sur des moments clés d'un tour, on sait très bien que le tour se joue sur quelques moments clés. Et la montagne en fait partie. Cette année, c'était des étapes particulièrement difficiles. Qui était plus difficile que l'année dernière, qui était plus haut en termes d'altitude que l'année dernière. Et pour moi, à ces moments-là, pardon, il n'a pas été capable de faire la différence sur le plan physique. Alors oui, bien sûr, on peut toujours dire qu'il fait beaucoup mieux que les autres, ça c'est évident, mais il visait le titre, il visait pas autre chose, Pogacar, cette année, il visait pas la deuxième place. Donc à partir du moment où il a perdu ce Tour de France, effectivement, on peut analyser que l'autre a très bien couru et qu'il a fait un excellent Tour de France, qu'il a parfaitement géré avec son équipe, mais je pense quand même que dans l'analyse globale de directeur de course de Pogacar, il va pouvoir se dire à la fin, peut-être qu'on aurait dû faire une préparation quand même un tout petit peu plus soutenue qu'un tout simplement un Tour de Slovénie.
David, est-ce que tu partages les arguments développés par Marion ?
Oui, absolument. Moi, je pense que il y a un cumul de choses. Évidemment, l'équipe Emirates est moins structurée et puis moins sur le papier. Moins dense et moins costaud que la Jumbo, ça c'est la première chose. Donc évidemment, on gagne pas comme Marie l'a dit, on gagne pas un tour tout seul. Et là, ça a manqué parce qu'on a vu tout le temps Pogacar derrière dans la roue de Vingegaard et puis ses coéquipiers disparaître un peu satellitaire autour de lui. Ça c'est la première chose et c'est quand même très très grave. La deuxième chose, c'est que manque de prépa, ça j'en suis certain, puisque la première soi-disant manque de sucre dans le sang, moi j'y crois pas. Il y a eu d'ailleurs pas mal de polémiques là-dessus sur le fait qu'il est coincé quand Vingegaard a fait l'écart.
Le fait qu'il n'ait pas simplement fait une hypo.
Oui, il y a eu quand même pas mal de doutes. Et puis moi je doute parce que moi j'en ai. Enfin, je pense que toi aussi. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont fait un peu de sport dans leur vie ont vu un jour ou l'autre un copain ou une copine même soi-même partir en hypo, et il n'avait pas forcément les symptômes d'une hypo. Quand tu fais une hypo, t'es dans le gaz complet, t'es même c'est comme si t'étais assommé, abasourdi, et au moment où il a eu son trou noir, et ben il n'était pas du tout dans cet état-là, quoi. Je pense que c'est autre chose. Voilà, et je pense qu'il était trop court, manque de prépa, peut-être un coup de chaud, mais très certainement pas une hypoglycémie. Puis la troisième, c'est que il s'est heurté à quelqu'un qui avait bien fait le job, quoi, et puis qui a fait qui est quasiment à son niveau et qui a su faire la différence avec une grosse équipe. Voilà, parce que tu mets Pogacar dans l'équipe de la Jumbo, je pense que avec le même niveau, je pense qu'il est devant. Il a tellement écrasé le tour.
Pogacar était le meilleur l'année dernière. Il a du reste, pour votre gouverne, préparé ce tour de la même manière que l'année dernière. Mais donc, il était incroyable l'année dernière. Il roulait sur tout le monde. Et là, cette année, il y a un mec qui est meilleur que lui. Mais c'est Pogacar qui est déficient.
La Jumbo a préparé le tour différemment.
Si t'es meilleur que Pogacar, c'est que Pogacar était déficient. Enfin,
justement, je suis pas d'accord avec toi, Marie. Je suis sûr que le problème de Pogacar, c'est qu'il a gagné. Et il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers. Exactement. Il s'est mal remis en question. Tu peux faire même le même programme d'entraînement et puis il n'y a pas du tout à avoir les mêmes incidences, hein, parce que tu n'as pas le même engagement. Donc voilà, je pense qu'il est jeune, hein, il est encore très jeune pour absorber un Tour de France au niveau médiatique, au niveau de tous les aléas que ça peut, puis de la pression qu'on peut avoir sur les épaules. C'est loin d'être évident. On n'en parle jamais assez. Et peut-être que là-dessus, il a été un peu novice pour le coup.
Je me tourne vers Pierre-Yves Leroux, toi qui as suivi jour après jour cette course. Marion disait tout à l'heure, Pogacar, il n'a couru que le Tour de Slovénie. Bon, c'est un petit peu exagéré quand même. Il a fait une grosse saison. Ça fait un petit moment qu'il est sur le pont, le double vainqueur du Tour tout de même.
Oui, alors après, on ne peut pas parler de grosse saison comme à une époque où les coureurs arrivaient avec 50 jours de course sur le Tour de France. Mais il est à peu près au même nombre de jours, c'est-à-dire autour de 20-25 comme l'année dernière, avant le départ du Tour. C'est-à-dire qu'il a fait Milan-San Remo, il a fait Tirreno-Adriatico, il a fait l'UAE Tour. Sa saison, elle a commencé début février. En revanche, c'est vrai que préparer un Tour de France sur le Tour de Slovénie, ce n'est pas aussi bien que le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Très certainement. Mais ça avait marché l'année dernière. En revanche, il y a deux ans, il avait fait le Dauphiné. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de suffisance. C'est vrai, possible. Après deux victoires, il s'est dit, bon, ça suffit, le Tour de Slovénie. Je suis chez moi, c'est important aussi. Et ça va passer pour le Tour de France. Néanmoins, je pense quand même que le collectif de la Jumbo a fait la différence. Et que si vous mettez Pogacar et Vingegaard seul au départ d'un Tour de France, c'est Pogacar qui l'emporte.
Et bien justement, Pierre-Yves, on va écouter Tadej Pogacar, le leader de l'équipe UAE. Il a été interrogé évidemment sur la puissance, la force de frappe collective de la Jumbo, l'équipe de Vingegaard. Écoutez ce qu'il en pense.
Je ne sais pas si ma chute m'a fait perdre du temps, mais aujourd'hui Jumbo était trop fort. J'ai essayé, j'ai tout misé pour reprendre le maillot jaune. Quand je suis tombé, j'ai perdu un peu en motivation pour la dernière montée, mais je n'ai pas abandonné. Je pense que j'ai donné le maximum aujourd'hui. Je suis fier, mais le meilleur a gagné.
Voilà, le fair play, de Pogacar, effectivement, c'était après la 17e étape et l'arrivée au sommet de Otakam. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a senti peut-être un petit peu moins dominateur, un petit peu moins aérien sur dans les pentes de la montagne, mais effectivement, ce Vingegaard est paru... quasiment imbattable dans la montagne cette année, et peut-être effectivement plus sûr de lui grâce à ce collectif de la Jumbo. Du coup, vous, Marion, David, vous attendez à voir un Pogacar revanchard et plus fort que ça l'an prochain, par exemple ?
Vas-y, David.
Vas-y, je t'en prie, Marion.
Non, je t'en prie, vas-y.
Non, mais je pense qu'il va être piqué, c'est un champion, c'est clair. Il va être piqué au vif et puis il va redoubler. C'est une défaite qui va être extrêmement riche pour lui, j'en suis certain. Tu ne gagnes pas le Tour plusieurs fois comme ça par hasard. Donc il a le mental, c'est un compétiteur. Je pense qu'il va aborder la saison prochaine d'une autre manière. Et ça sera intéressant de voir qui composera l'équipe Emirates s'il y reste pour l'épauler dans tout ça. Je pense qu'il va avoir des exigences, qu'il va mettre au point peut-être lui-même son équipe avec son manager pour que l'année prochaine, il ne puisse pas se faire écraser à nouveau. Parce que s'il ne règle pas son problème d'équipe, ça sera très compliqué.
Non, mais attendez, arrêtez, il avait une grosse équipe, Bennett, Soler, McNulty, il y avait du monde dans cette équipe aussi. Je crois qu'il y a des dynamiques qui s'installent comme ça. Et celle de Vingegaard était hyper positive du départ. Ça part chez lui. À la présentation des équipes, souvenez-vous, à la présentation des équipes, quand on pose la question à Roglic, c'est qui le chef cette année à la Jumbo, tout le monde répond, c'est Vingegaard. C'est comme ça. Même si ce n'était peut-être pas encore tout à fait décidé en interne, il y avait quelque chose d'écrit et les histoires elles se font comme ça. Et ce Tour de France pour le coup, en plus du coup, on s'est quand même bien régalé, c'était popcorn pendant 3 semaines. Moi je vais retenir ça et retenir qu'il va vraiment falloir suivre ce petit Danois pour la suite, et le duel en tout cas s'annonce plutôt excitant.
Même si Primoz Roglic est un gentleman, et effectivement il s'exprimait au Danemark chez son jeune coéquipier Vingegaard.
Mais tu vois, comme les choses...
faire un petit peu plaisir au public.
C'est des détails, mais ça s'imprime comme ça. Hein.
En tout cas...
Bon, après, moi, les déclarations médiatiques... J'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de langage qu'on leur demande de sortir. Est-ce qu'ils le pensent vraiment? Ça, c'est encore autre chose. On a tous fait des conférences de presse en nous demandant de dire ce qu'on devait dire et pas forcément en le pensant.
Bon, ouais, après, ça devait bien être ton genre, Marion, je pense.
Là où je rejoins totalement David, c'est que je pense qu'il va y avoir une analyse profonde qui va être faite par lui et son équipe, parce que bien évidemment, il n'est pas tout seul, Pogacar, et de se dire sur quoi finalement on a défailli. Est-ce qu'effectivement la préparation a été un petit peu trop suffisante et donc mettre beaucoup plus l'accent l'année prochaine sur la préparation. Est-ce qu'il faut recruter pour avoir des coéquipiers plus à sa hauteur, comme l'a fait la Jumbo? Voilà, il va falloir mettre les accents sur ce qu'il a manqué, sur ce qu'il a pêché et repartir. Mais est-ce qu'il va repartir? Ça, c'est évident. On n'est pas un champion comme lui en gagnant aussi jeune le Tour de France sans avoir des ressources qui sont quasiment inépuisables. Mais cette année, je pense que vraiment, il ne s'attendait pas à subir comme il a subi. Il a quand même fini septième sur le Granon à 2 minutes 51 de Vingegaard. Pour lui, c'est quand même difficile à digérer, difficile à avaler. Donc, il va y avoir une remise en question, ça c'est certain.
L'orgueil, évidemment, du champion, le double tenant du titre, Tadej Pogacar, qui devra se consoler avec le maillot blanc du meilleur jeune, hein, qui nous rappelle encore qu'il a de belles années devant lui, et plus de 50 minutes d'avance d'ailleurs dans ce classement sur son dauphin, l'anglais Pidcock. Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, on te retrouve évidemment aujourd'hui sur l'antenne de RMC, évidemment, Intégral Tour, comme tous les jours sur RMC, et la retour évidemment pour débriefer de ce contre-la-montre aujourd'hui, 40 km jusqu'à Rocamadour. Vous restez bien avec nous, 9h29, les grandes gueules reviennent dans un instant, s'intéressera au cas Neymar, le PSG doit-il s'en séparer? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
9h33, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli, David Douillet. Dans un quart d'heure, votre première ration de zapping avec Manuel Neuer, le gardien du Bayern, qui fait son radin avec un chauffeur de taxi qui lui rapporte son portefeuille. Vous nous direz ce que vous a inspiré cette info. C'est à partir de 9h45, mais pour l'instant, on va enfiler notre costume de directeur sportif. Ou directeur du football, ou conseiller sportif, ou comme vous voulez, mais en tout cas on s'intéresse au cas Neymar, puisque cette semaine la rumeur faisait état de la volonté du PSG de se séparer de son meneur de jeu brésilien. Le numéro 10 parisien aurait été proposé à Manchester City, ce que le club anglais a réfuté depuis par l'intermédiaire de son manager Pep Guardiola. Mais malgré tout, ça nous donne l'occasion de vous poser cette question, les GG. Le PSG doit-il selon vous tout faire pour se séparer de Neymar? Marie Martineau.
C'est un oui.
C'est un oui pour Marie. Marion Bartoli.
Un grand oui.
Un grand oui, oui. Tiens, ça m'aurait étonné ça. Et David Douillet.
Pas n'importe comment. C'est un petit nom, allez.
Un petit nom, voilà, un nom assumé.
Pour faire la contradiction.
Alors, avant d'écouter avec attention vos arguments, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent évidemment réagir au 32-16 en appelant Amina, sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live. On va quand même poser un petit peu les données du problème avec Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport. Salut Nico.
Salut à tous.
Salut Nico.
Nicolas, c'est vrai que le parcours du Brésilien à Paris, c'est du bon, du moins bon, et surtout une impression générale de frustration.
Souvenez-vous, le foot va très vite. On est 4 jours après le revers du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions en mars dernier. Le Parc des Princes siffle, insulte Neymar. Une scène que le numéro 10 n'avait pas du tout appréciée. Le Brésilien est devenu le symbole de l'échec du PSG sur la scène européenne. Quelques mois plus tard, changement de comportement. Le Brésilien renvoie une image positive depuis le début de la préparation. Et ça séduit les supporters. Mais après 5 ans sous le maillot parisien, la question d'un départ devient incontournable. Paris n'est pas opposé à un départ, mais ne peut pas l'affirmer aussi clairement. Sur ce point, Christophe Galtier a été clair. Je souhaite que Neymar reste chez nous. Avec la Coupe du Monde en novembre, Neymar, sous contrat jusqu'en 2027, n'ira pas n'importe où en cas de départ. Le joueur rêve de remporter cette compétition avec le Brésil. Et à 30 ans, il sait que ça sera sûrement sa dernière chance d'y participer. Comme dévoilé par RMC il y a quelques semaines, le prix du transfert et le salaire imposant de Neymar, on parle de plus de 4 millions d'euros par mois, sont deux freins importants à un possible départ cet été. Le Brésilien sait aussi que les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur la fin du Blink bling-bling à Paris lui était en partie destiné. Ce discours n'avait pas plu à Neymar et à son entourage. Pour le moment, les acheteurs ne se bousculent pas et son avenir n'est toujours pas officiellement éclairci. Tout en évitant de se froisser avec la star du vestiaire, le dossier Neymar est la mission la plus délicate de l'été pour le duo Campos-Galtier.
Merci beaucoup Nicolas, tu peux évidemment rester avec nous pour le regard de Marie Martineau. Tu restes évidemment avec nous pour ce débat si tu veux y apporter des précisions. Le PSG doit-il tout faire pour se séparer de Neymar? C'était un grand oui pour toi Marion Bartoli, je te donne donc la main.
Bah, si je suis un peu mesquine, j'ai envie de te dire non, gardez-le, comme ça il vous fera perdre encore la saison prochaine. Mais si je veux que le PSG joue mieux et gagne, effectivement, bien évidemment qu'il doit s'en séparer. Alors, quand tu lis les déclarations de Nasser, d'ailleurs, je crois que ça fait partie d'un des zappings sur les nouvelles règles du camp des loges, c'est quand même à se tordre de rire, quoi. Alors, les enfants, c'est fini le téléphone portable quand on mange, c'est pas bien. Ils vont vous taper sur les doigts.
Il n'y a pas que Neymar qui utilise son téléphone portable au camp des loges, j'imagine tout de même.
Non, mais ça finit par être ridicule dans ce club, franchement. Pour l'instant, bah, pour moi, Neymar, bien évidemment que ça a été un des meilleurs joueurs du monde, ça ne va pas revenir là-dessus. Bien sûr qu'il a fait les plus belles années du Barça. Et bien sûr qu'au départ, ce n'était pas une mauvaise idée de le faire venir au PSG, ça c'est certain. Après année, malheureusement, par son comportement, par son train de vie, parfois un peu douteux, par tout ce que même lui... parfois le manque d'envie qu'il montrait sur le terrain, mais il s'est attiré les foudres de son propre public. Et effectivement, ça a été ce point culminant lorsqu'il s'est fait siffler, huer, insulter pendant tout un match, parce qu'il a forcément très mal pris. Et je pense que ça a accéléré cette décision du club de vouloir faire partir en se disant, si on veut commencer une page nouvelle avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, on ne peut pas continuer à conserver, entre guillemets, celui qui nous a fait perdre. Alors même si, bien évidemment, ça n'a pas été le seul qui a fait perdre l'équipe, mais en tout cas, c'est celui qui a le plus reçu de critiques. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument qu'on enlève Neymar de l'effectif. Sur le fond, moi, je ne peux pas leur donner tort, au vu de ses prestations, surtout la saison précédente, où franchement, à des moments donnés, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Il marchait sur le terrain, il faisait plus aucune différence, ou quasiment plus aucune. Mais comme ça a été dit dans le sujet, il a la Coupe du Monde qui arrive avec le Qatar. On sait très bien qu'il veut gagner avec la CSAO et qu'il ne peut pas partir n'importe où. Parce que s'il part n'importe où et qu'il baisse beaucoup trop en termes de niveau, il ne va pas arriver à faire gagner son équipe. Donc je ne sais pas s'il y a un club qui va être capable de payer un salaire aussi important. On parle aussi pour un départ que le père de Neymar réclame que la totalité de son contrat au PSG lui soit payé. Donc pour la très modique somme de quand même 200 millions d'euros, ça lui permettra d'aller acheter quelques affaires à la prochaine Fashion Week. Mais au-delà de ça, moi je vois pas comment sur le plan financier il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut s'aligner sur le salaire de Neymar avec la prestation qu'il a produit sur la saison précédente. Le Barça désire un attaquant, ils ont préféré Lewandowski. On savait très bien que Neymar voulait absolument repartir au Barça, ils ont préféré prendre quelqu'un qui était performant. Donc les équipes aujourd'hui ils font pas dans le prosélytisme, ils cherchent des joueurs qui sont performants, qui marquent des buts, qui sont en forme, qui sont des leaders de vestiaire, qui n'ont pas commencé à poser des problèmes sur plan comportementaux. Et ça, aujourd'hui, Neymar, il remplit plus ces cases-là.
Alors, est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu? Est-ce qu'on caricature pas un petit peu, quand même, le rôle, ou en tout cas, les excès du meneur de jeu brésilien? David, toi, tu me disais, c'est un petit nom, et on peut pas tout expliquer non plus par le montant du salaire du Brésilien. Mais Paris a quand même un intérêt sportif à le garder, non?
Oui, bien sûr qu'il y a un intérêt sportif pour le garder, évidemment, si tant est qu'il sache le manier, le manager, parce que Marion en a parlé, il s'agit de ça. Enfin, je crois, au-delà de Neymar, que c'est un des gros problèmes du PSG, et ça sera tout l'enjeu et tout l'objectif de Galtier que de manager des athlètes de cette trempe-là, pour qu'ils soient efficaces. Mais un garçon comme lui coûte tellement cher à son club, c'est vrai, Marion l'a dit. Le modèle économique du foot, on le connaît parfaitement. Et si le PSG se précipite, même si pour eux, on a pu le remarquer, l'argent n'est pas forcément un énorme problème, il pourrait y perdre gros. Vaut mieux peut-être garder un joueur qui, malgré tout, toutes ses frasques et tout son comportement, est quand même un immense joueur sur le terrain, et d'essayer de le manager, de le cornaquer pour qu'il donne le meilleur de lui-même, plutôt que de le brader et de perdre beaucoup. Peut-être que Galtier sera le cornaquer pour que il marche à 100%, ce qui n'a jamais forcément été le cas au PSG pour lui.
Marie Martino, pas convaincue, hein, j'ai l'impression.
Non, mais je pense que, évidemment, si le PSG veut aller au bout de sa transformation, d'espèce de toilettage qu'ils veulent nous vendre et tout, évidemment qu'il faut se séparer de Neymar, qui cristallise un peu tous ses excès. Hein, voilà, il le paye parce que voilà, c'est une star internationale, et quand il est arrivé, il était tellement attendu, il était tellement voulu, c'était tellement incroyable. Souvenez-vous, c'était quand même un des premiers gros achats de l'ère Qatari, et donc forcément, il cristallise tout ça. Donc je pense qu'évidemment, pour annoncer un changement, ben voilà, il faut le montrer par des actes. Après, s'ils veulent aussi montrer aux autres qu'on a fini dans l'ère du caprice et de l'adaptation, en tout cas au caprice des uns des autres, c'est pareil, c'est sûr que ça marcherait très bien de s'en séparer. Après, sur la Ligue 1, on n'a pas grand chose à lui reprocher, il a des stats corrects, il a marché comme le PSG en règle générale a marché sur les autres. Il est un peu aidé parce que quand tu comptabilises des passes ben forcément, si tu fais la passe à un mec comme Mbappé, tu as quand même de grandes chances qu'il les mette au fond, donc ça fait monter tes propres stats, mais on lui demandait d'être super bon en Champions League, et c'est là où il a pêché, et malheureusement quand tu coûtes si cher, évidemment que c'est là où on vient le chercher. Maintenant, je crois que une année un peu déficiente comme il a fait cette année, tu peux encore être vendu et le PSG pourrait encore peut-être espérer en tirer quelque chose. S'il renouvelle et qu'il fait une deuxième année un peu moyenne, il va commencer à vraiment plus valoir grand-chose, et ça pourrait être assez problématique, même si on sait que les Qataris n'ont pas trop de problèmes.
Baissé, hein, parce que ça ne fait pas qu'une année qu'il est défaillant.
Oui, bah là, c'est quand même la première grosse année où il est défaillant. En tout cas, j'imagine qu'il serait plus facilement vendable à un prix raisonnable cette année que l'année prochaine.
Oui, alors des joueurs...
Marie, franchement, Marie, à 4 millions d'euros... 222 millions, il n'en vaut plus que 75 aujourd'hui sur Transfermarkt. Hein.
Oui,
mais 222 millions déjà.
C'est une estimation Transfermarkt.
Oui, mais il n'a fait que baisser.
Oui, oui. Ça,
si aujourd'hui, regarde, ils l'ont proposé à la Juve, ils n'en veulent pas. Ils l'ont proposé à Newcastle, ils l'ont pas pris. Ils l'ont proposé au Barça, ils ont préféré Lewandowski. À un moment donné, c'est comme Ronaldo. Tu vois, il y a les faits. Si un club te veut, ils vont mettre l'argent sur toi. Si aujourd'hui,
dans le
foot actuel et le business actuel, ils te prennent pas, c'est qu'il y a des raisons. Tu vois, si un joueur comme lui est disponible et veut partir et que le deal ne se fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Et les raisons,
les raisons, c'est simple, c'est que le gars aujourd'hui, il coûte 4 millions d'euros par mois au PSG.
Il coûte trop cher, c'est ça, oui.
Et Marie, tu l'as dit, ouais, il joue bien, mais c'est parce qu'on demande à un mec qui coûte 4 millions par mois. Quand on paye quelqu'un aussi cher, on veut qu'il joue excellemment bien. On veut que ce soit le meilleur des meilleurs des meilleurs. Or là, il n'est pas au niveau de sa réputation et de sa rémunération.
Bah, finalement,
tout.
La question,
simple.
Est-ce que c'est pas au lieu de doit le PSG doit-il pousser Neymar dehors? Est-ce que ce serait pas le PSG peut-il pousser Neymar? A-t-il les capacités
Il y a les 40 millions d'euros par an qui touchent au PSG, mais le plus important, en fait, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Il lui reste encore 5 ans au PSG. Et en fait, pour le vendre, ça serait un prix énorme. Et personne ne veut l'acheter à ce prix-là. Ça serait peut-être du 200 millions d'euros encore, parce que 40 millions x 5. Donc, on va très vite arriver aux 200 millions d'euros. Donc, c'est impossible de le vendre cet été à ce prix-là avec les 5 ans qui lui restent.
Et on se souvient effectivement des efforts que le PSG avait dû déployer pour le faire prolonger, effectivement. Et à l'époque, tout le monde au club s'en félicitait. Bon, 16 buts, 8 passes décisives pour un joueur qui fait une mauvaise saison, ça reste tolérable. Mais effectivement, ça reste très cher, et on attend mieux du Brésilien. Le Brésilien qui, comme ses copains du Paris Saint-Germain en stage de préparation au Japon, affronte les Urawa Red Diamonds. C'est à midi, heure française. Vous aurez le compte-rendu de cette rencontre, évidemment, grâce à Arthur Perrault, notre envoyé spécial, qui suit les traces du club parisien au Japon, où Neymar apparaît très copain, avec notamment Kylian Mbappé. La complicité, visiblement, est de retour entre les deux joueurs qui s'entendaient si bien au début de leur collaboration.
Non, mais souhaitons.
C'est toujours joyeux une préparation.
Du PSG, oui, il y a en tout cas beaucoup de sourires, et le public japonais est gâté. Vous restez bien avec nous, merci beaucoup Nicolas Pelletier d'être passé par le studio des GG. Vous restez bien avec nous parce que dans un instant, c'est déjà l'heure de votre première ration de zapping. On s'en fout pas. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
9h49, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marion Bartoli, Marie Martino, David Douillet. À 10h, la punchline de la semaine. Je suis mauvais, je ne suis pas bon. Thibaut Pinot, l'un de nos chouchous, bien sévère avec lui-même au moment de faire le bilan de ce Tour de France. On se demandera avec nos GG si le coureur français aurait dû réserver ses efforts pour aider David Gaudu, le leader de la Groupama, pour cette édition. Rendez-vous à 10h donc pour ce débat, mais pour l'instant, On s'en fout ou on s'en fout pas ?
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors vous connaissez le principe, il est mythique, mais je vous le rappelle tout de même, je vous donne une info si elle vous intéresse. Vous avez le droit à la parole, si elle ne vous intéresse pas, vous n'en dégoûtez pas les autres, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Si elle n'intéresse personne, on la zappe, on passe à la suivante. Première info de ce zapping, Manuel Neuer qui serait un gros radin. On s'en fout, on s'en fout pas, Marie Martineau.
Non, je voudrais que tu nous racontes, je m'en fous
tu veux
pas.
Que tu nous racontes, on s'en fout pas. Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas, ça m'a fait beaucoup rire.
On s'en fout pas, David Douillet.
Bah moi je m'en fous, allez.
Oui, bon écoute, bah, tu vas quand même entendre l'histoire hein, grâce à Marie et Marion. Ça se passe à Munich il y a quelques semaines. Manuel Neuer, le gardien du Bayern, avait oublié son portefeuille. Il y avait notamment 800 euros en liquide dedans. Hein, c'est ça la vie des joueurs de foot. Hein. Il oublie ça dans un taxi. Le chauffeur, un certain Azir S, a tenu à lui rapporter en main propre. Il retrouve l'adresse du gardien bavarois grâce aux papiers d'identité qui sont dans le portefeuille. Au domicile de Neuer, il tombe sur, entre guillemets, un homme de confiance du joueur. Il lui remet le portefeuille. Et du coup, bon, il a fait 120 bornes hein, quand même pour réaliser sa BA. Il s'attend, notre ami Azir, à une petite récompense. Deux semaines après, elle arrive. Un maillot dédicacé par le portier. pas content, notre ami Azir. Il a déclaré au quotidien Bild, cette récompense est une plaisanterie. Il s'attendait visiblement à un geste un petit peu plus généreux de la part du gardien du Bayern. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marion et Marie ? Marion.
Ben moi, ça m'inspire Coluche. J'ai un copain tellement radin que pour ne pas se déplacer, il regarde la messe à la télé et pendant la quête, il va aux toilettes. Ça m'inspire, mais totalement ça. C'est honteux. Enfin, ouais. J'ai pas d'autre mot. Le gars, il touche 18 millions de salaires par an. T'as un chauffeur taxi honnête qui fait 120 bornes pour lui rendre son portefeuille. Il est de dommage, même pas financièrement, au moins de l'essence utilisée pour lui ramener son portefeuille. J'ai pas de mots.
Alors, le chauffeur de taxi, effectivement, a expliqué au quotidien Bild que, grosso modo, le trajet lui avait coûté quelques 400 euros. Alors, je sais pas s'il a pas un petit peu exagéré. Bah, mais visiblement, il s'attendait à...
Mais au moins, tu fais un geste. Enfin, je suis désolée, c'est quand même... C'est la moindre des choses, quoi.
Je sais pas.
Je sais pas, c'est juste de l'éducation et du bon sens et du savoir-vivre, c'est tout. C'est juste du savoir-vivre, en fait.
Je suis d'accord avec toi, Marion. Ouais. Et en même temps, je crois vraiment que... Et vous allez peut-être me trouver un peu béni, oui, mais je m'en fous. Si tu donnes pour recevoir, faut pas donner. Voilà.
Mais alors c'est ça. Est-ce que effectivement, ce chauffeur, il s'est dit bon, je vais faire. Est-ce que si ça avait été un client lambda, il aurait fait le même geste, non?
C'est et... ça. Ou peut-être il aurait pu le mettre dans un chronopost
et l'envoyer. Tu vois, il avait quelqu'un d'honnête et qui a pas envie de piquer l'argent des gens et qui a pas envie de piquer le portefeuille des gens. C'est juste peut-être quelqu'un d'honnête et qui aurait fait exactement la même chose pour une personne peut-être. Lambda ou pas. Je pense pas qu'on va lui faire un procès, mais je sais pas. Enfin, tu vois, s'il y a quelqu'un qui fait 120 bornes et en plus il va devoir les faire dans l'autre sens pour me ramener un truc, tu sais très bien combien l'essence coûte. Éventuellement les péages, la moindre des choses, c'est de lui dire bah, écoutez, déjà merci, et puis combien ça vous a coûté pour me ramener ça, et au moins je vous dédommage du prix que ça vous a coûté. Enfin, c'est juste, encore une fois, pour moi, du savoir-vivre. C'est juste normal, mais bon.
Voilà, ça fait une belle pub en tout cas à Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, et une belle pub à Azir S, hein, donc chauffeur de taxi du côté de Munich. Deuxième info de ce zapping, une Coupe du Monde des clubs de rugby à l'horizon 2025. On s'en fout, on s'en fout pas, David Douillet.
Ouais, je m'en fous pas.
On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Non, je m'en fous pas.
Marie Martineau.
Elle n'a pas compris. Coupe du monde des clubs.
Coupe du monde des clubs, okay. Tout à fait.
Oui, moi, je vais vous écouter. Je sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais je veux qu'on m'explique le
Elle
fin,
passe. C'est ouais. Le quotidien anglais The Telegraph qui le révèle cette semaine. Une Coupe du monde des clubs pourrait voir le jour en 2025. Elle réunirait 16 équipes et aurait lieu tous les 4 ans au printemps. Elle verrait s'affronter 8 clubs de l'hémisphère sud et 8 clubs de l'hémisphère nord. Pourquoi on s'en fout pas, David Douillet?
Bah parce que je trouve que le rugby, je sais que je vais faire sauter mes d'effroi mes copains rugbyman, mais il a encore besoin, même s'il est entré aux Jeux Olympiques, mais ce n'est que du rugby à 7, enfin c'est très fort, hein. A besoin encore d'une étiquette mondiale. C'est un sport qui mérite d'être pratiqué dans tous les pays du monde et c'est pas encore le cas. Donc le fait d'avoir une résonance mondiale par un championnat, c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis deuxième chose, c'est aussi intéressant pour les grands clubs de rugby parce que le modèle économique qui va être inhérent à cette ligue qui, je crois, il me semble, sera fermée peut-être, va pas être inintéressant. Et évidemment pour les meilleurs joueurs du monde qui seront castés dans ces grands clubs-là. On est en train de passer peut-être à une nouvelle ère du rugby économiquement parlant. Et puis Par contre, le challenge de cette affaire-là, ça va être d'insérer tout ça dans un calendrier qui est déjà extrêmement chargé. Alors tout ça n'est pas voilà, c'est on essaie de faire entrer des carrés dans les ronds, mais le projet est intéressant, me semble-t-il, pour l'avenir du rugby.
Bon, Marion Bartoli.
Bah, moi, je trouve que les joueurs, ils ont déjà des calendriers totalement surchargés. Que de rajouter une compétition en plus, ou de toute façon, à faire toujours jouer les mêmes clubs dans les mêmes pays. Je rejoindrais David si vraiment, effectivement, on arrivait à développer dans de nouveaux pays le rugby et arriver à insérer de nouvelles nations. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste toujours les mêmes qui vont s'affronter. Alors même les Sud-Africains vont être... Enfin, les équipes des franchises sud-africaines, pardon, vont être considérées comme des équipes de l'hémisphère nord, pas de l'hémisphère sud. A priori, il y aurait 8 équipes de l'hémisphère nord, 7 de l'hémisphère sud et une équipe japonaise. Donc, on repart toujours avec les mêmes équipes. Ça serait tous les 4 ans. Ça serait à la place de la Coupe d'Europe, éventuellement. 4 poules de 4. Ça fait un nombre de matchs supplémentaires. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir les insérer dans le calendrier. Et puis surtout, je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à conserver 14 équipes dans le Top 14 si on a, par exemple, 4 équipes françaises qui rejoignent ce genre de compétition. Enfin, il y a des clubs qui ne vont juste pas arriver à faire rentrer autant de dates dans leur calendrier, quoi. Donc, moi, sur l'idée de fond, ça ne me pose pas de problème. C'est juste que je ne vois pas comment, sur le plan des dates et du nombre de matchs joués, ça va être réalisable et faisable et que ce ne soit pas au détriment, encore une fois, des athlètes qui vont juste s'enquiller match après match après match après match avec les blessures, la fatigue et tout ce que ça engendre.
Les cadences intenables pour un avis défavorable de Marion Bartoli et l'argent, hein, ça nous aurait étonné, hein, pour un avis favorable de David Douillet, évidemment. La Coupe du Monde des clubs.
Non, mais non, rugby. Simon, mais t'as craqué ou quoi? C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est n'importe quoi. Je suis souvent en train de dire le contraire, justement.
Portrait des bons résultats économiquement. Ça a été.
Ah, mais avancé, toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche, Simon, sans déconner, mais tu crois quoi?
Oui,
tu crois que les athlètes
ont besoin de vivre aussi. Monsieur Douillet, effectivement.
Je considère que les rugbyman, au même titre que les footballeurs, de par les mois qu'ils suscitent, ont le droit d'en tirer les meilleurs fruits, et c'est tout à fait normal. Et je trouve que le rugby, sur ce point, est un petit peu à la traîne. Donc, s'il y a une économie qui se met en route, moi, je suis content pour mes copains rugbyman. Voilà, c'est tout. Maintenant, si tu veux pas que les rugbyman gagnent d'argent, Simon, c'est ton choix. Et je te laisse avec cette polémique personnelle.
Fair enough, tu te débrouilles. Monsieur Douillet, on embrasse les copains du Moscato Show et Denis Charvet et toute la bande que vous retrouverez à la rentrée sur RMC. Retour du zapping à 10h45. On parlera, Marion l'a teasé tout à l'heure, effectivement, de ces nouvelles règles en vigueur la saison prochaine au Camp des Loges. Rendez-vous donc dans 3 quarts d'heure maintenant pour le retour du zapping. Les grandes gueules du sport, elles reviennent dans un instant. On remonte sur la bicyclette. On va essayer de consoler un peu notre Thibaut Pinot national. À tout de suite sur RMC.